La sagesse populaire a de bons conseils à donner pour tous les événements importants de la vie. Par exemple, concernant les héritages, elle dit « qui attend les souliers d'un mort risque d'aller pieds nus ». En d'autres mots, il vaut mieux ne pas trop compter dessus. Ce qui est sûr, par contre, est que les embrouilles familiales liées à des problèmes de succession font les choux gras des avocats spécialisés dans les histoires de fric. Dans l'ancien Israël, la transmission des biens et surtout de la terre était strictement réglementée afin justement d'éviter les disputes. Le concept d'un héritage qui passe des parents aux enfants n'a pas une origine humaine mais vient de Dieu et il tient une très grande place dans les Écritures. Je continue à lire dans le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils que Dieu nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Verset 2. Lorsqu'on fait un sondage dans la rue et qu'on demande aux gens « Selon vous, qui est Jésus-Christ ?», les réponses sont très variées. Certains disent que c'était un bon éducateur, un fanatique religieux, un révolutionnaire, ou encore qu'il était faux ou même coupable de crimes. Des gens bien intentionnés voient même en lui la forme la plus noble et la plus élevée de l'homme, car doté d'une étincelle de divinité, et selon eux, nous la possédons tous, mais l'attisons rarement. Il existe donc de grandes divergences de points de vue concernant l'identité de Jésus. L'auteur aux Hébreux va citer sept caractéristiques de l'excellence du Christ afin de cerner exactement qui il est. Dans un court passage qui commence ici, Jésus est présenté en tant que finalité de toute chose, créateur de l'univers, le centre de tout ce qui existe et celui qui efface le péché. L'Ancien Testament déjà prophétisait que Jésus-Christ serait un jour héritier de tout ce qui appartient à Dieu. Je lis un passage. « Moi, j'ai établi mon roi par l'onction sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, « Tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu ? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre, et le monde jusqu'en ses confins lointains sera ta propriété. » L'apôtre Paul écrit, « Oui, par lui et pour lui, tout a été créé, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. » Tout ce qui existe n'a pas seulement été créé par Jésus-Christ, mais aussi pour lui. Dieu a fait de Jésus l'héritier de toutes choses. Seulement, il faut bien voir que cette phrase utilise une terminologie humaine qui s'applique à Jésus-Christ, mais pour le bénéfice en tant que champion et représentant de la nouvelle humanité constituée par tous ceux qui appartiennent à Dieu. En effet, Jésus est lui-même le Créateur et en tant que seconde personne de la Trinité, il est égal au Père. Il a dit à l'un de ses disciples, « Et quoi ? Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? » Après que Dieu ait créé l'homme et la femme, il les a bénis et leur a dit, « Soyez féconds. Multipliez, emplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. » Adam possédait alors la maîtrise de la création parce que Dieu l'avait placé sous son autorité. Il pouvait donc commander aux éléments naturels et par exemple décider du degré d'humidité de l'air ou de l'intensité des rayons du soleil. Mais après avoir désobéi à Dieu, il a tout perdu. Cependant, selon l'apôtre Paul, quand Jésus a pris une forme humaine, il est devenu le dernier Adam afin de racheter le mal que le premier Adam a fait et reprendre au nom d'une nouvelle humanité rachetée la domination sur la création que nos premiers parents ont perdue. Quand le Christ était sur terre, il a fait des miracles extraordinaires. Il possédait une maîtrise complète et absolue sur les maladies, sur les éléments naturels, et il pouvait même créer, comme quand il a nourri des milliers de gens en multipliant 5 pains et 2 poissons. Jésus a fait ses prodiges parce qu'il est Dieu, mais en lui était également présent le dernier Adam, chef de la nouvelle humanité. L'apôtre Paul écrit « Puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ. » Dans l'éternité et déjà pendant le millénium, les élus qui font partie de la nouvelle humanité recevront en partage de Jésus-Christ, leur chef et leur champion, un héritage fabuleux constitué de capacités et de dons prodigieux. Au premier siècle de notre ère, le droit romain exigeait que les testaments soient scellés 7 fois pour prévenir toute escroquerie. Lorsque le rédacteur d'un testament enroulait le parchemin, il le cachetait à chaque tour au moins 7 fois de suite et les sceaux ne pouvaient être ouverts qu'après sa mort. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean s'inspire du droit romain quand il écrit « Alors je vis dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Il était scellé de 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Mais personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre ni de le lire. Alors l'un des vieillards me dit « Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Alors je vis un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Ce livre dont il est question ici est le titre de propriété de ce monde et de tout ce qu'il contient. Il est destiné à l'héritier à qui la terre appartient et pour cette raison, il vient prendre ce livre de la main de Dieu parce que lui seul en a le droit. Dans ce passage de l'Apocalypse, il est aussi dit que l'agneau était comme égorgé et avait remporté la victoire. Or, faut-il le rappeler, ce n'est pas pour lui-même que Jésus est mort, ressuscité et qu'il a triomphé de Satan et de la mort, mais pour le compte de la nouvelle humanité de tous les âges qui appartient à Dieu. Toutes les actions de Jésus et tout ce qu'il possède sont pour les racheter. La grande tribulation est une période pendant laquelle Jésus prend possession de la terre. Il ouvre les sceaux un à un et chaque fois il assoit davantage son autorité et gagne un peu plus le contrôle de son héritage. Finalement, il est écrit que le 7e ange sonna de la trompette et des voix retentirent dans le ciel disant « Le royaume du monde a passé maintenant aux mains de notre Seigneur et de son Christ. Il règnera éternellement. » Après avoir ouvert le 7e sceau, la 7e trompette retentit, ce qui signifie que désormais la terre est entièrement à lui. Lorsque Jésus est venu la première fois, il s'est fait pauvre pour nous de façon à ce que par sa pauvreté nous soyons enrichis. À ce moment, il ne possédait strictement rien. Il a même dit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit à lui où prendre du repos. » Quand il est mort, on s'est partagé ses vêtements et il a été enseveli dans un tombeau qui appartenait à un autre. Cependant, lorsqu'il reviendra, il héritera et prendra de force tout ce qui existe pour le compte de la nouvelle humanité dont il est le Messie et le chef. Ainsi, ceux qui entreront dans le royaume puis dans l'éternité posséderont avec Jésus tout ce qui lui appartient. Nous ne serons pas des Christs ou des seigneurs, mais des cohéritiers à qui Jésus distribuera des responsabilités et des privilèges. L'apôtre Pierre écrit qu'il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Et de plus, il n'y aura ni jaloux ni envieux, car dans les cieux, chacun sera satisfait de ce qu'il aura reçu et content de son sort. Un jour, Jésus reprendra tout ce que Adam a perdu et le partagera avec la nouvelle humanité. Je continue le texte. C'est par son Fils que Dieu nous a parlé. C'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Verset 2. Jésus-Christ est l'héritier de tout parce qu'il est le Créateur. C'est la seconde caractéristique de la supériorité du Christ mentionnée dans ce chapitre. Jésus est l'agent par qui Dieu a créé le monde. L'apôtre Jean écrit « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. » Le fait que Jésus est le Créateur est une preuve irréfutable de sa divinité. C'est par Jésus que Dieu a créé l'univers. Ce mot « univers » signifie « les âges ». Le Christ est non seulement le Créateur de la Terre, des galaxies et de tout ce qui est matériel, mais aussi du temps, de l'espace et de l'énergie. Il existe quand même un certain nombre de scientifiques qui sont suffisamment honnêtes pour reconnaître que la probabilité de l'évolution et surtout de l'apparition d'un être pensant est statistiquement nulle. En effet, les conditions nécessaires à la vie sur Terre requièrent tant de milliers de circonstances qui devaient être présentes au même instant qu'une telle éventualité est inconcevable et tout à fait impossible. Pourtant, la science officielle y croit quand même parce que la seule autre alternative est la foi en un Dieu créateur, un point de vue inacceptable à cause de ses implications morales et spirituelles. Seulement, quand on rejette le créateur, les problèmes pour expliquer l'origine de cet univers extraordinaire, complexe et incommensurable sont insurmontables. Et des contorsions inouïes sont nécessaires pour essayer de faire coller les observations objectives avec les thèses de l'évolution. Non, l'univers ne peut pas être le fruit du hasard multiplié par le temps. Il a été créé et les Écritures enseignent que son créateur est Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrit « Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles » les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Je continue le texte. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Verset 3. Le troisième aspect de la supériorité du Christ est qu'il reflète la gloire de Dieu. Le mot traduit par « rayonnement » signifie « émettre de la lumière » et décrit Jésus comme la manifestation de Dieu. D'ailleurs, la seule image que nous avons de lui est Jésus-Christ. On ne peut pas apprécier la brillance du soleil en le regardant parce qu'il nous aveugle. Nous reconnaissons son rayonnement par les effets que ses rayons produisent sur les êtres humains qui bénéficient de sa lumière, de sa chaleur et aussi de son effet purificateur et guérisseur. C'est de ces manières que nous expérimentons le soleil. Pareillement, nous ne pouvons voir Dieu, mais nous le connaissons au travers de son Fils Jésus-Christ, qui est la représentation exacte de sa personne. Dieu n'a jamais existé sans Jésus-Christ, ni lui sans Dieu, et il ne peut jamais être séparé. Cependant, si le soleil est distinct de l'éclat qu'il produit, il n'en est pas de même du Christ qui est entièrement et absolument Dieu tout en étant une personne distincte des deux autres dans la Trinité. Un jour dans le temple, Jésus s'est écrié « Je suis la lumière du monde », dit-il. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie ». L'humanité est remplie d'injustices, de vices de tous ordres, de tragédies, de séparations, de maladies et de cimetières. C'est dans ce monde de ténèbres que Dieu a envoyé la lumière glorieuse de son Fils. Bien que seul Jésus puisse donner la lumière de la vie, un sens et un but à notre existence, l'immense majorité des hommes refuse de le reconnaître et encore moins de l'accepter. L'apôtre Paul écrit que le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Le quatrième aspect de la supériorité du Christ est qu'il est l'expression parfaite de Dieu. Non seulement il en est le rayonnement, mais aussi la substance. le mot pour expression désignait l'empreinte laissée par un cachet, le motif de l'étampe reproduit sur la cire. Pareillement, Jésus-Christ est la réplique exacte de Dieu, son empreinte parfaite. L'apôtre Paul écrit « Ce Fils est l'image du Dieu que nul ne voit ». Ici, le mot pour image a donné « icône » et désignait une copie précise et exacte. Si Jésus-Christ est l'icône de Dieu, c'est qu'il en est sa reproduction identique, ce que Paul affirme quand il écrit « En Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité ». La manifestation du Fils de Dieu en personne est tellement supérieure aux révélations antérieures de l'Ancien Testament qu'elle ne peut leur être comparée. Je continue maintenant le texte. « Ce Fils soutient toute chose par sa parole puissante. » Verset 3. C'est le cinquième aspect de la supériorité de Jésus. Non seulement il est le Créateur, mais tout continue à exister par lui. Le verbe pour « soutien » signifie « maintenir » et il est conjugué au présent, ce qui veut dire que cette action est continue et ne cesse jamais. Toutes les sciences, et même notre vie de tous les jours, sont fondées sur la permanence et l'immutabilité des lois qui régissent l'univers. Si elles étaient suspendues ne serait-ce qu'une fraction de seconde, toute la création matérielle serait instantanément remplacée par le néant. Quand on y réfléchit, on se rend vite compte qu'il faut une puissance infinie pour garder toutes les composantes de l'univers en fonctionnement afin qu'elles remplissent leurs fonctions. C'est vrai dans le domaine de l'infiniment grand, avec les innombrables galaxies qui se déplacent dans l'espace intersidéral, et c'est vrai aussi dans le domaine de l'infiniment petit rempli de particules, d'atomes qui ne se désintègrent pas, et rempli aussi de micro-organismes qui continuent à vivre. Et puis il y a nous, et nos milliards de cellules fort complexes qui sont de véritables usines qui tournent comme elles ont été programmées tant que nous sommes en bonne santé. C'est Jésus-Christ qui assure la cohésion de tout ce qui existe. Sa sagesse insondable et sa puissance infinie sont manifestées dans la façon dont il régit et soutient l'univers. Il le fait par sa parole toute puissante et sans le moindre effort. Il lui suffit de le vouloir. Je continue le texte. Et après avoir accompli la purification des péchés, Jésus-Christ siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. Verset 3. La sixième caractéristique de la supériorité du Christ est la valeur infinie de son sacrifice. Selon les Écritures, le salaire du péché, sa conséquence, c'est la mort. Jésus est allé à la croix et a subi cet ignoble et cruel supplice à notre place, prenant sur lui le jugement que méritent nos fautes. Quiconque accepte ce paiement, ce sacrifice pour lui-même, a son péché expié et effacé, ce qui fait qu'il échappe au châtiment et en surcroît, il est rendu pur et juste devant Dieu. Plus loin dans cet épître, l'auteur écrit que Jésus est un grand prêtre entièrement différent de tous les précédents parce que eux, ils étaient obligés d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leurs propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Lui n'en a pas besoin car il a tout accompli une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Jésus, par contre, a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il a offert non le sang de bouc ou de veau, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. Le Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel comme une victime sans défaut. Il est apparu une seule fois à la fin des temps pour ôter les péchés par son sacrifice. Fin de citation. Pour les Hébreux à qui cette épître fut écrite, parce qu'ils portaient le lourd héritage de la loi, de telles affirmations étaient révolutionnaires. Pour les Juifs, la croix représente l'ignominie, mais l'auteur la présente comme un sujet de gloire pour le Christ et pour ceux qui croient en lui. L'apôtre Pierre, lui aussi, place une très grande valeur sur ce sacrifice quand il écrit « Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Comme vous et moi sommes pécheurs, nous avons une dette envers Dieu qui ne peut être acquittée que de deux manières possibles. Soit je la paye moi-même par le jugement éternel, soit j'accepte le paiement que Jésus a fait pour moi sur la croix lorsqu'il s'est offert à Dieu en sacrifice. En effet, plus loin dans l'Épître, l'auteur dit qu'il n'y a pas de pardon des péchés sans que du sang soit versé. Et l'apôtre Jean écrit « Parce que Jésus a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. » Cependant, je ne peux être au bénéfice de ce sang que Jésus a versé que si je l'accepte par la foi en mon âme et conscience, pour ainsi dire. Ceux qui rejettent le Christ pour une raison ou pour une autre mourront dans leur péché éternellement parce qu'il n'existe aucun autre moyen que le sang de la croix pour effacer les péchés. En d'autres mots, une fois que vous entrez dans l'éternité, vous n'avez pas une seconde chance. Les dés sont irrévocablement jetés à tout jamais.